Ok. Donc chapitre 4, Mishnah 9, page 32. Amocher et Atmo, Amocher et Atmo veut être banav, les goy. Je crois que chez vous, il y a une autre version, il y a la goy. Voilà. Le Ovet Kochavim, donc chez vous, certainement, au lieu de goy, ils ont dû écrire Ovet Kochavim, c'est-à-dire un idolâtre. Bon, alors en fait, la vraie version, c'est pas un idolâtre, on parle pas d'un idolâtre, on parle d'un goy tout court. Donc, c'était la censure. La censure, on disait, bon, on parle d'un idolâtre, du style, on parle que des idolâtres, mais les goyim, on n'a rien à vous reprocher. Les goyim en général. Donc, Amocher et Atmo veut être banav, les goy. Celui qui vend, celui qui se vend soi-même, ou ses enfants, les goy à un non-juif. Il se vend en tant qu'esclave. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
Il a le droit.
On nous dit que...
Il a le droit de se vendre à un
non-juif. C'est Michel Benegalin,
c'est pas la question.
Écoutez bien. En podimoto. On ne le rachète pas. On ne le rachète pas. Ça veut dire qu'on lui dit, monsieur, tu t'es vendu en tant qu'esclave, tu restes esclave. Pourquoi ? La Gemara explique que c'est pour pas que la personne, on va le racheter une fois, il va se revendre, il va se dire, bah tiens, ça vaut le coup. Parce que moi, quand je me vends, on me donne de l'argent.
Bah oui.
D'accord ? Donc il va se revendre comme ça deux, trois fois, de toute façon, j'ai un peuple, Baruch HaShem, très miséricordieux, ils vont venir, ils vont me racheter. D'accord ? Il va faire ça deux, trois fois.
Daniel Tartin,
il va faire ça deux, trois fois. Et... Et donc bien entendu, c'est pas ça ce qu'on veut attendre. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant écoutez bien ce que dit la Gemara. La Gemara rajoute, il y a toute une discussion dans la Gemara sur ça. Hein. Est-ce qu'on doit prendre ce risque-là de dire que certainement que la personne va se revendre encore une fois. Écoutez bien la conclusion de la Gemara, qui diffère un peu de la Mishnah, qui dit qu'en vérité, la Mishnah parle ici d'un cas où une personne s'est déjà vendue trois fois. Une première fois et on l'a racheté. Une deuxième fois et on l'a racheté. Et là vient la troisième fois et la Gemara dit c'est de ce cas-là que la Mishnah parle quand elle nous dit qu'on ne le rachète pas. Ah. Il y a toute une discussion, une longue discussion dans la Gemara pour dire est-ce que peut-être que s'il s'est vendu c'est parce qu'il n'avait pas de quoi, etc. Et à la fin la conclusion de la Gemara c'est de dire que notre Mishnah parle d'un cas dans lequel une personne s'est déjà vendue trois fois. Et c'est là au bout de trois fois qu'on dit écoute moi.
Attends, deux fois et ça c'est la troisième.
Deux fois on l'a racheté et là c'est la troisième.
C'est la troisième.
La troisième c'est là que trois fois on ne la rachète pas. Aval mais. Par contre, on peut racheter les enfants après la mort de leur père. Parce que bien entendu, de qui on a peur ici ? Les enfants, ils n'ont rien fait. Les enfants, c'est le père qui les vend. Donc on dit on ne rachète pas les enfants parce que le père, il va les revendre encore une fois. Il va s'amuser à les revendre. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, on peut racheter les enfants après la mort de leur père. Bien entendu, pourquoi ? Pour pas que les enfants se mélangent parmi les nations. Amocher et Tzadehu les goy. Celui qui vend son champ, les goy, donc à un non-juif. Une personne qui vend son champ à un non-juif. Vechazar ou le kacham imenu Israël. Et ensuite, il y a un juif, d'accord ? Il y a un juif qui l'a racheté. Donc moi, je vends mon champ à un goy. Et par derrière, il y a un juif qui va racheter ce champ. Quel est le din ? C'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème.
Au moins 20% des bénéfices.
C'est une affaire financière, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème ? Aloker mevi bikurim mipne tikkun haolam. Ça veut dire comme ça. Bien que les fruits avaient poussé quand le champ était dans la possession du non-juif, l'acheteur qui est juif devra amener du bikurim. Pourquoi ? Mipne tikkun haolam. C'est quoi tikkun haolam ? Tikkun haolam, la Gemara explique la réparation du monde. Qui traduit ça comme ça ? L'intérêt général, je pense. Non ? Intérêt général, je traduis.
L'intérêt général.
Ouais, c'est comme ça qu'on traduit en général tikkun haolam. Tikkun haolam, c'est pas la traduction exacte, mais c'est la meilleure explication en français. L'intérêt général. Pourquoi intérêt général ? Intérêt général, il y a plusieurs raisons ici. Premièrement, d'accord, c'est parce que les Chachamim se sont rendus compte que les gens, quand ils voulaient pas payer la Trouma, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient leur champ, ils faisaient pousser, etc., ils faisaient pousser la récolte. Non, pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et dès que la récolte avait poussé, ils vendaient un goy.
Et après, ils rachetaient
par derrière. Ils rachetaient par une autre société. C'est la femme qui rachetait. D'accord ?
Mais ils n'ont pas le maser.
Pour éviter de payer le maser.
D'accord ? On n'a pas le droit de faire une terre d'Israël à
Montréal. Ah, voilà, justement. Donc le problème qu'on avait, c'est quoi ? C'est qu'eux, ils disaient, moi je le vends, mais je le rachèterai par derrière, par une autre société. C'est qui l'autre société ? C'est sa femme, c'est son cousin, c'est son frère, qui vous voulez. D'accord ?
On connaît, hein.
D'accord ? C'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que les Chachamim m'ont interdit. Pourquoi ? Parce que le problème qu'on a, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas enlever la kedusha de la terre d'Israël en vendant la terre à un goy.
Même si elle est occupée par quelqu'un d'autre.
Oui. Donc les Chachamim, c'est pour ça que les Chachamim ont dit, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, le maaser, tu devras le payer. Alors, le goy, il ne pourra pas le payer, mais quand tu le rachèteras après avec ton autre société, ton autre société devra payer le maaser. Donc le gars il dit bon ok, dans ce cas-là je vends pas, j'achète pas, laissez-moi tranquille.
Ça fait clair.
D'accord. Voilà, là on a compris.
Est-ce qu'il passe une fois tous les 7 ans
Ah non, c'est pas tous les 7 ans ça.
Non, mais en Israël, vous avez des problèmes qui sont...
Non, là c'est différent. En Israël, c'est une autre chose qu'ils font. En Israël, c'est ils vendent le champ à un goy, enfin ils vendent les droits du champ à un goy, mais avant que les fruits poussent, avant même qu'on plante. Ça c'est différent. Ça c'est différent, il y a des rabbins qui acceptent, des rabbins qui n'acceptent pas. Dans la majorité du monde religieux, on n'accepte pas, d'accord. Mais bon, il y a une solution qui a quand même été trouvée, parce que dans les faits, il y a des tas de champs qui ont continué à planter, c'est une avéra tellement grave que mieux vaut trouver une solution que de dire qu'il n'y a pas de solution. D'accord. Mais ceci dit, dans le monde religieux en général, on compte pas sur cette permission-là, parce qu'on considère que c'est une permission qui est vraiment bédiavad de bédiavad. Donc c'est pour ça que, quand vous allez par exemple l'année dernière au Shouk Machane Yehuda, je ne sais pas si ceux qui connaissent le Shouk Machane Yehuda à Jérusalem, d'accord, il y a des vendeurs qui vous disent, voilà, garantie avec un hercher que ça vient de... C'est des fruits garantis qui ne viennent pas de Juif. Et pas de Eter Mechira, voilà.
Eter Mechira.
Aujourd'hui encore, d'accord, quand vous avez des salades, il y a des fois des salades qui vendent, dans lesquelles c'est écrit Eter Mechira. Salade qui vient de Eter Mechira, c'est écrit.
C'est salade qui vient de Eter Mechira. Mais c'est pas les arbres là, c'est des...
Des champs, oui.
Oui,
c'est la même chose.
Ça veut dire quoi Eter
Mechira?
Eter Mechira, ça veut dire que c'est l'autorisation de la Shemitah par la vente. Eter Mechira. Et le Rav Kook, c'est d'autres rabbinim. Bon, enfin, le Rav Kook, faut pas mettre trop sur sa tête, parce que le Rav Kook avait parlé quand il y avait la famine.
Justement, c'est
d'accord.
Quand il avait fait, c'est parce qu'il fait.
C'est parce qu'il y avait la famine. D'accord. Il faut pas se remettre sur sa tête, hein.
C'est quand ça
Dès qu'on a envie de mettre quelque chose sur la tête.
Non, au contraire.
Ouais, voilà.
Moi, dans mon esprit, c'est se dire que bon. Si j'ai autorisé ça, c'est qu'il y a de quoi.
Bien sûr. Bon, quoi qu'il en soit, c'est bien que ces choses-là ont été faites, à mon avis, parce que ça donne une solution pour les gens que de toutes les façons. Alors maintenant on passe à Perek Ramishi au 5e chapitre et on va parler encore de toutes sortes de halachot qui ont été faites autour de Tikkun HaOlam, donc autour de l'intérêt général. Donc il dit comme ça. Anizakin. Donc notre Mishnah va parler de trois types de paiements qu'un homme a l'obligation de payer. D'accord ? Trois types de paiements qu'un homme a l'obligation de payer. Premier paiement, ça peut être pour un nézek, c'est-à-dire si j'ai endommagé quelqu'un personnellement ou avec mes biens. Par exemple, ma voiture a endommagé quelqu'un, ou moi j'ai endommagé quelqu'un. Donc ça c'est premier type de dommage. Deuxième type de dommage, d'accord, donc encore une fois, ça veut dire ou bien un dommage personnel, ou bien un dommage par mes biens. C'est-à-dire que j'ai fait un trou, quelqu'un est tombé dans mon trou, ça veut dire par moi ou par mes biens. Deuxième type de choses qu'on doit payer, c'est pour une dette. J'emprunte de l'argent à quelqu'un, d'accord, donc je dois lui rembourser. Troisième type de paiement, c'est l'argent de la ketouba, que le mari a l'obligation de payer à la femme qui est divorcée. C'est quoi le point commun qu'il y a entre ces trois types de paiements? C'est que dans ces trois types de paiements, on a le droit de se servir des terrains. Ça veut dire que si je dois de l'argent à quelqu'un, ou si j'ai une ketouva à payer, je préserve, ou si j'ai un dommage que j'ai fait, la personne peut se servir de mon terrain pour payer la dette. Si je n'ai pas de métatélim, si je n'ai pas de mobilier, il a le droit de se servir de l'immobilier. D'accord? Alors, maintenant, qui dit terrain? Dans les terrains, il y a trois catégories de terrains. Il y a une catégorie de terrain qui s'appelle Idit, une catégorie de terrain qui s'appelle Benonit, et une catégorie de terrain qui s'appelle Zivourit. Alors retenez bien ces mots parce qu'on les retrouvera dans le traité Baba Kama. Un terrain Idit, c'est un terrain de catégorie A. Ça veut dire le meilleur. Un terrain catégorie Benonit, c'est un terrain moyen. Et un terrain Zivourit, ça veut dire c'est un mauvais terrain. C'est un mauvais terrain. D'accord? Bon. Alors, en quoi il est mauvais? Alors, il y a plusieurs critères qui font qu'un terrain est bon et mauvais, ou bien, donc déjà, c'est par la quantité de production au mètre carré, d'accord? C'est pas partout la même chose. Il y a des terrains qui sont plus forts, qui ont une puissance plus forte que d'autres. C'est aussi par rapport à la qualité des fruits, d'accord? C'est par rapport au rocher qui est en dessous, c'est par rapport à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de critères pour rendre un terrain idite, benonite ou zibourite. Donc ça, c'est des critères qui se font, des critères qui ne sont pas créés par les rabbinistes, c'est des critères qui sont créés par les agriculteurs. D'accord, les agriculteurs qui disent, voilà, ce terrain, c'est un terrain catégorie A, catégorie B, catégorie C. D'accord. La question qu'on va se poser maintenant, c'est, ok, donc, imaginez-vous que je dois de l'argent à quelqu'un, et j'ai trois types de terrain. Et le gars dit, ben moi, je prends le meilleur type de terrain. J'ai dit, ah non, ben, je ne vais pas donner le meilleur type de terrain. Moi, je préfère que tu me prennes 100 mètres carrés, quand je préfère que tu me prennes 100 mètres carrés de mon terrain zibourite, que tu me prennes 10 mètres carrés de mon terrain qui est catégorie A. D'accord? Dans les faits, il prendra la même valeur. Enfin, bien sûr, si je donne une somme, je vais rendre cette somme. Mais la différence va être, est-ce que je prends un meilleur terrain ou un terrain moins important? Donc quantité, qualité. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qui on écoute? On écoute ici le créancier, d'accord? Ou on écoute le débiteur, celui qui doit de l'argent. Le Rav Mishnah dit comme ça. Anizakin, les gens qui ont été endommagés. Donc, imaginez-vous, j'endommage quelqu'un. J'endommage quelqu'un avec ma voiture. Shamin la'em be'idit. On ira se servir du meilleur de leur terrain. Du meilleur de leur terrain. D'accord? D'où on sait, dans la paracha Mishpatim, c'est écrit, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. C'est écrit, il devra donner le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. Ça veut dire quoi le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne? Ça veut dire qu'on se sert de ce qui est de mieux chez lui. Bien entendu, il ne prendra pas plus que la valeur. Mais il se sert de ce qui est de mieux. Pourquoi? Parce que ce qui est de mieux, ça se revend mieux. D'accord? Comme on m'a dit quand je voulais acheter une voiture, on m'a dit une voiture, quand elle a des options, elle se revend mieux. Ce qui est de, les choses de bonne qualité se revendent mieux. Même si c'est un grand terrain, mais s'il n'est pas de bonne qualité, ça se revend plus difficile. Donc, Anizakin, Shamin Lahem Beidit. Quand quelqu'un s'est fait endommager, en d'autres termes, moi je t'ai rien demandé. Tu viens, tu prends avec ta voiture, tu me rentres dedans. Je dis, moi je t'ai rien demandé. Je me sers de ce qu'il y a de mieux chez toi. Il faut que je...
celui qui n'a pas d'argent pour payer, tu veux dire.
C'est sûr. Il faut que je rembourse le plus facilement possible. Il faut que je me... Donc, ne me prends pas la tête, moi je t'ai pas demandé de m'endommager. La différence qu'il y a avec les deux autres cas, c'est que dans le cas du mariage et dans le cas de la dette, le créancier a déjà accepté. On l'a pas mis dans une galère. C'est lui qui a accepté de prêter de l'argent. C'est la femme qui a accepté de se marier avec cet homme. Bon, après ils sont divorcés. Tant pis. Mais c'est elle qui a accepté de s'entrer dans cette situation. Donc là, ça sera différent. Ce qu'il y a de particulier dans le dommage, c'est que dans le dommage, je t'ai rien demandé, tu viens, tu me rentres dedans. Alors moi, je prends le meilleur. Je prends le meilleur de ce qu'il y a chez toi pour me faire rembourser le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc ça, c'est pour les Nizaki.
D'accord.
Ou Baal Chov. D'accord. Et le Baal Chov, donc le Baal Chov, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le créancier, Babenonite. Le Baal Chov, le créancier, de quoi il se sert? Il se sert de la Benonite, c'est-à-dire il se sert d'un terrain moyen. Oui. D'accord. Bien entendu, si le débiteur veut donner le meilleur terrain, il n'y a pas de problème. Mais il se sert d'un terrain moyen. Pourquoi? Alors sachez que normalement, selon la Torah, le Baal Chov, le créancier, n'aurait pu se servir que du terrain catégorie C. Pourquoi on lui a permis de se servir d'un terrain de catégorie B? Parce que le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que Mifne Tikkun HaOlam, encore une fois, l'intérêt général, parce que les Chachamim se sont rendus compte que les gens ne voulaient plus prêter. Ils disaient, ouais, le jour où il n'aura pas de quoi me payer, il va me reléguer son terrain catégorie C, et c'est moi qui vais devoir le revendre, je me galérer, je vais me prendre la tête avec, je prête pas. Donc les Chachamim m'ont instauré, ok, au lieu de catégorie C, on va te donner catégorie B, mais pas catégorie A. Parce que ça, c'est la Torah qui l'a dit, vous savez. C'est la Torah qui a dit que quand quelqu'un nous doit de l'argent, on n'a pas le droit de rentrer chez lui à la maison et de le vider de ses biens. La Torah nous dit que, normalement, selon la Torah, on aurait dû prendre catégorie C. C'est que les Chachamim qui ont instauré ça, Mipnei Tikkun HaOlam, pour l'intérêt général.
On ne va pas de dire qu'il doit donner, d'après la Torah, le meilleur...
Non, ça c'est pour les dommages.
Ouais.
Pour le dommage.
Ah là, on est dans le prêt, là.
Là, on est dans le prêt. D'accord. Uktuva Tisha Beziburit. Et la Ketuva d'une femme, là, dans ce cas-là, il n'y a plus de critères. Parce que quand une personne se marie, d'accord, non mais attendez, normalement on a dit que même le créancier, il aurait dû prendre normalement de catégorie C. Seulement pourquoi on a mis catégorie B? Parce que sinon le créancier ne voudra pas prêter. Ça ne peut pas s'appliquer pour la femme. Parce que la femme, quand elle se marie, elle ne pense pas à divorcer. Donc ça ne sera pas un critère de dire, ouais, le jour où je vais divorcer, au lieu de me donner catégorie C, au lieu de me donner catégorie B ou A, il me donnera catégorie C. Il dit, non mais maintenant je l'aime mon mari, maintenant on se marie maintenant. Donc c'est pas un critère qui pourra l'empêcher de se marier. Puisque c'est pas un critère qui pourra l'empêcher de se marier, donc on reste à la base. D'accord, c'est comme une dette. C'est pour ça que ça reste. Oui, bon. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les milieux très aisés, quand on se marie, on pense au divorce aussi. Chez les personnes très populaires. J'ai entendu que chez les personnes populaires, les stars, comme on les appelle, il paraît que depuis le mariage, ils pensent déjà au divorce. Qu'est-ce qui se passe si on divorce?
Comment elle va faire maintenant pour le divorce? Non, t'as fait le mariage.
Bon.
La valeur du terrain est fonction du nombre d'années qui restent pour la...
Non, pas du tout. Il y a beaucoup de critères. C'est la masse de production, c'est la qualité des fruits.
Il y a des experts.
Il y a des experts. Ça, c'est pas le domaine des Rahamim.
À cette époque, ils avaient tous des terrains.
Tout le monde avait des terrains à l'époque, bien sûr.
Bah oui, puisqu'au départ,
c'était que des agriculteurs.
Avec des employés.
Alors, c'est ça qu'on parle.
C'est ça, le Oved, c'est l'employé.
Retenez bien, Izit, Benoni, Ziburit, c'est les termes qu'on reverra très souvent dans la Gemara Baba Kama, parce que ça revient très souvent pour savoir de quel terrain on peut se servir. terrain catégorie A, catégorie B, catégorie C.
Pour le mariage, c'est catégorie C.
Rabbi Meir Omer.
C'est ça.
Rabbi, pardon.
Pour le mariage, c'est catégorie
C. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Af Ketuvat Isha Babenoni. Rabbi Meir dit que même pour la Ketuvat d'une femme, on peut se servir de Babenonite, et on, pas, on peut se servir. Elle a le droit de se servir du Benonite, c'est-à-dire d'un terrain de catégorie B. D'accord. Mais là, la Khan n'est pas comme Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, bon, écoute, déjà tu la divorces, au moins donne-lui un terrain catégorie B, qu'elle peut le rendre facilement. Tu vas la laisser avec un terrain. Vous savez, des fois, des gens, ils nous doivent de l'argent, ils vont te donner un objet que tu peux revendre, mais il est vieux, tu peux le revendre, mais il est beau, et c'est compliqué à revendre. Donc, Rabbi Meir dit, c'est catégorie B. Mais la Khan n'est pas comme lui.
Alors, elle suit quoi, là, la Khan?
Catégorie C. Catégorisé, puisque selon la Torah, normalement, la femme a un statut de créancier, et le créancier, normalement, on aurait dû lui donner catégorisé, c'est seulement le créancier qui n'est pas une femme, c'est-à-dire le créancier standard, qu'on l'a passé en catégorie B pour l'intérêt général, pour éviter que les gens, tinal de la bifne la vine, pour éviter que les gens arrêtent de prêter. Mais là, elle n'a pas ce problème, donc on reste en catégorisé. Continue la Mishnah. La Mishnah, donc, Mishnah bête, deuxième Mishnah. On parle d'un cas comme ça.
À chaque fois, il y a des Mishnah, il y a de bêtes.
D'accord. Si maintenant, écoutez bien ce qui se passe. Si maintenant, celui qui est endommagé, d'accord, donc imaginez-vous que quelqu'un a endommagé, donc il avait une voiture, et avec sa voiture, il a fait un dégât, il a abîmé une autre voiture, donc il doit de l'argent, il doit payer. Et une fois qu'il devait déjà, il avait déjà l'obligation de rembourser son dommage, c'est-à-dire après le dommage, il vend le bien. Il avait un terrain, il le vend. C'est-à-dire qu'il avait un terrain qui était normalement hypothéqué pour ça. Dès qu'il a fait le dommage, tous ses biens sont hypothéqués, sont réservés pour payer son dommage. Et lui, entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il sent que ça va arriver, il vend le bien.
D'accord. Il s'est rendu insolvable.
Oui. Ou bien, autre cas, alors il n'a pas demandé il a demandé le certificat de non-gage, mais pour l'instant, c'était encore en non-gage. Tu sais, Julien, quand on achète une voiture, il faut demander un certificat de non-gage.
Pour
s'assurer que
elle est payée. Ouais.
Maintenant, lui, le gars, il sentait que ça allait arriver. Il sentait que ça allait arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout de suite son terrain. Ça peut être un cas aussi. Une personne avait une dette à rembourser et il a mis dessus sa maison et entre temps il a vendu sa maison. D'accord. Et entre temps il a vendu sa maison. Alors, qu'est-ce qui peut se passer?
C'est gagé.
Ça s'appelle des nechassim meshubadim. D'accord. Ça s'appelle des nechassim meshubadim. C'est quoi nechassim meshubadim? Nechassim meshubadim, ça veut dire que c'est des biens qui étaient déjà, littéralement, ça veut dire asservis. C'est des biens qui étaient déjà réservés, qui étaient déjà hypothéqués. Donc, ils étaient déjà réservés pour ça. Donc, la personne qui s'est fait endommager ou le créancier a le droit d'aller se servir chez l'acheteur. Il va se servir chez l'acheteur et il reprend le terrain. Et après, ce sera à l'acheteur de se débrouiller donc chez le débiteur ou chez celui qui est endommagé pour lui dire, attends, tu m'as vendu un terrain, c'est une arnaque, rembourse-moi. Mais celui qui s'est fait endommager, il ne pose pas de question, il reprend le terrain. C'est une procédure, le bedin reprend le terrain. Bimkom shiyesh nechassim bnechorin. Si maintenant, il reste des terrains, si maintenant il reste des biens bnechorin. Ça veut dire que si maintenant, c'est vrai que le mazik, celui qui est endommagé, a vendu des terrains, mais il lui reste encore d'autres terrains qu'il n'a pas vendus. Donc en d'autres termes, le créancier peut se servir de ces terrains. Mais c'est les terrains catégorie B. Voilà, imaginez le cas. J'ai trois types de terrains. J'ai un terrain catégorie A, catégorie B, catégorie C. Je dois de l'argent à quelqu'un. Comme je sens que la date va bientôt arriver, que j'ai pas de quoi rembourser, je dis attends, je peux lui donner un terrain catégorie A. Je vends mes terrains catégorie A, catégorie B, qui étaient donc réservés pour la personne. Et il me reste un terrain catégorie C. Le terrain catégorie C, il a assez de valeur pour rembourser avec ma dette. Mais c'est un terrain catégorie C. Le créancier, il arrive le jour J, j'ai pas de quoi rembourser. Je dis écoutez, il me reste tout ça. Dis, mais quoi? Vous avez catégorie A, catégorie B. Il va au Bedin. Qu'est-ce qu'il fait le Bedin? Très bien. Qu'est-ce qu'il fait le Bedin? Est-ce que le Bedin reprend les terrains catégorie A et B? Est-ce que le Bedin va déposséder les acheteurs du A et du B? Alors normalement oui, mais le problème c'est qu'il reste un terrain catégorie C, donc il y a un terrain encore. C'est pas qu'il n'y a plus de valeur.
Mais d'après la dette, on a dit que c'est catégorie B qui marche.
Bonne question, mais là le problème c'est que ça a déjà été vendu.
Mais...
Alors regardez ce que dit la Mishnah.
Il a le droit de le reprendre.
Bimkom shiyesh nechassim benechorin. Dans le cas où il reste encore des biens qui sont libres ça veut dire donc qui n'ont pas été vendus et qui sont encore en propriété, donc qui n'ont pas d'hypothèque, Afilou M. Diborit, même si s'il reste de catégorie C, même s'il reste de catégorie C, d'accord, qu'est-ce qu'on lui dans le catégorie C, qu'est-ce qu'on est? On dit que dans ce cas-là, le créancier pourra se servir que du catégorie C et pas catégorie A et B. Pourquoi? Là, hein, l'intérêt général ne va pas être côté créancier.
Emprunteur.
D'accord? Mais là, l'intérêt général va être côté acheteur. Celui qui a acheté. Imaginez-vous, il achète un terrain. Même si normalement on se renseigne. Alors à l'époque, comment on se renseignait? Comme aujourd'hui on va à la préfecture. À l'époque, ils allaient au Bedin, on demandait est-ce qu'il n'y a pas une affaire qui tourne autour de ce terrain. Mais là, par exemple, quand il y a eu un dommage, le Bedin n'a peut-être pas eu le temps d'être au courant. Parce que le gars il peut vendre son terrain quelques heures après qu'il a fait son dommage. Donc dans ce cas-là, les gens, qu'est-ce que tu veux de l'acheteur? Il a déjà acheté son terrain, il a déjà commencé à planter dedans, etc. Il a fait ce qu'il a pu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'achète plus de terrain? Comment on fait? Et intérêt général. Pour l'intérêt général, on a dit que s'il reste un terrain même catégorie C, on le donnera. C'est un peu méchant en vérité, hein. C'est un peu méchant parce que...
Après les gens,
c'est vrai.
Il parle de catégorie, mais et la surface, peut-être 200 mètres carrés de catégorie B.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
C'est
plus que 100 mètres carrés de catégorie A.
Vous avez raison. Mais il peut se servir que de ce qu'on lui doit. Ça c'est sûr.
Oui, c'est ça.
Mais
quelle que soit la catégorie.
Bien sûr. Mais ce que j'ai expliqué, c'est que 200 mètres carrés de catégorie C, c'est plus difficile à vendre que 50 mètres carrés de catégorie A. Parce que quand c'est catégorie A, toutes les choses de qualité se vendent plus facilement.
Le 16e.
Voilà. Un appartement au 16e se vend plus facilement qu'un appartement dans le 9-3.
Quoique maintenant on dit que les petits appartements se vendent mieux que les grands.
Non mais sans me vanter, vous êtes bien dit que c'est que
après les gens.
Dans un cas très rare. Où le Bedin n'était pas au courant, etc. Et qu'à ce moment-là, parce qu'on voit que quelqu'un qui va acheter un terrain, l'acheteur il va quand même se renseigner. On n'achète pas un terrain comme ça. Donc il va
sur un
chemin.
Sauf si on
l'a mis à la casse,
il demande
aux gens.
Mais non, mais c'est ça.
Il l'a mis à la casse.
C'est pour ça qu'on a donné l'exemple. C'est pour ça qu'on a donné l'exemple, Yaakov, d'un mazik, c'est quelqu'un qui est endommagé. Parce que tu as raison, ça, pour une créance, tu as raison.
Oui.
On peut se renseigner. Parce qu'il y a des traces. Oui. D'accord. Oui. Mais mazik, qu'est-ce qui se passe pour une qui est endommagé? C'est un dommage.
Mon champ, il a brûlé
faire un dommage. Je viens de faire un dommage et je vends le terrain de l'autre côté. D'accord. On peut rien me dire.
C'est pas pour gagner spécialement de.
D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'a dit la Torah? La Torah a dit il doit donner le meilleur de son champ. Au moment où il va payer, le meilleur de son champ, c'est catégorie C. Vous prenez là. Bon. C'est un peu méchant, mais il faut penser aux acheteurs aussi, parce que n'oubliez pas que de l'autre côté, on va déposséder un acheteur.
Vous comprenez pourquoi nous autres juifs, nous savons comment faire pour être le moins sensible possible.
Non, parce que comme a dit M. Benichou, de toutes les façons, il va se faire rembourser. Mais ce sera un peu plus difficile. Bon.
Ça fait 2000 ans qu'on arrive à détourner le
système. En Nifraï, Minirse et Tomim, Elam et Naziborit. Ah, attention, une autre exception. On ne peut se faire rembourser des biens des orphelins. Ça veut dire, imaginez-vous quelqu'un qui a fait un dommage, ou qui a emprunté de l'argent à quelqu'un et qui meurt. D'accord, lo alenu. Et donc il laisse les biens à ses enfants. Donc il a laissé terrain catégorie A, catégorie B, catégorie C. Et qu'on a de quoi se servir de catégorie C. On se servira de catégorie C. Pourquoi? 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 Pour les orphelins, pour penser aux orphelins, parce que les orphelins...
Ils sont peut-être multimilliardaires.
Déjà, ils galèrent, d'accord?
Mais ils sont peut-être multimilliardaires, ces orphelins.
Mais des règles générales. Déjà, ils galèrent, d'accord? Ils ont perdu un parent proche. En plus, ils vont ensuite, ils vont dire, bon, d'abord, vous allez payer les créanciers avec les meilleurs terrains, et on va vous laisser les terrains les plus nazes, d'accord?
Les enfants de Michel Jackson.
Excusez-moi.
C'est pas ça que c'est dit dans la Michelin, je sais pas si c'est bien traduit, hein. C'est dit, on ne peut être payé par des biens d'orphelins que par ceux de moindre valeur.
Oui. Voilà.
Ah non. Ça veut dire que si jamais le montant du dommage dépasse la valeur des...
Yaakov, excuse-moi, j'arrête tout de suite. Le montant du dommage, de toutes les façons, il faut le rembourser. La question n'est pas sur le montant.
Sur quoi ils vont se servir?
La question est de quelle catégorie on va se servir.
S'il n'y a pas assez avec le C.
Mais c'est bien sûr qu'on se sert ailleurs.
Ah, voilà,
c'est sûr ça. Mais la question est de quelle catégorie on se sert. De quelle catégorie on se sert? C'est sûr qu'il faut rembourser l'intégralité de la dette. La question ne se pose pas.
En priorité.
D'accord. Mais est-ce qu'on se sert de quelque chose qui se revend mieux? Je ne sais pas comment ils font aujourd'hui les huissiers quand ils viennent dans une maison.
Ils prennent
ce qui se vend le mieux, non?
Ils n'ont pas quoi
plus c'est dire.
Ils ont
bien qu'ils n'ont
pas
quoi plus.
D'accord. Si un huissier, par exemple, il doit venir chez quelqu'un à la maison pour récupérer 5000 euros. D'accord, 5000 euros. Et que dans la maison, il y a des tableaux, etc., il y a une valeur de 300 000 euros. Qu'est-ce qu'il prend en premier?
Il prend tout de suite les trucs de 300 000 euros.
Non, mais il y a beaucoup d'objets et en
et
tout, il y a 300 000 euros.
Copain, il dit, viens.
Il y a des tableaux, il y a des canapés, il y a une télé. Qu'est-ce qui passe avant?
Il prend tout ce qui c'est le mieux vendeur pour lui.
Voilà, mieux vendeur, vous voyez.
Bien sûr.
Mieux vendeur. Alors, pour un orphelin, c'est pas comme ça. Pour un orphelin, on prend tout de suite qui est le moins mieux vendeur.
Non. Moins vendeur.
Moins vendeur, oui.
Moins mieux vendeur.
Moins
bien. D'accord.
On a compris.
Alors, je conclue. Quelle heure il est? Oui. Une petite Mishnah encore. En motim, Mishnah Gimel, en motim, la chilat perot, velishivar karkaot. Donc on ne peut pas sortir. La chilat perot, comment il réussit la chilat perot? Pour le paiement des
biens
hypothéqués. Ouais. Alors, la chilat perot, c'est quoi? Donc c'est quoi la chilat perot? Par exemple, un homme a volé un champ de son ami. D'accord? Enfin de son ami. Ça est toujours dans la Mishnah, on dit son ami. Donc un homme a volé un champ et il a revendu à quelqu'un d'autre. Hein, c'est un classique. Il vole un champ et il le revend. D'accord ? Il a volé un champ ou il a volé une voiture et il le revend. D'accord ? Bon, je parle d'un champ parce que ce champ-là, il va le planter. D'accord ? Et ce champ-là, il va le planter. Ça veut dire il va planter le champ. D'accord ?
Ah,
oui, bien sûr. Et il va faire des fruits. D'accord ?
Il m'a planté ! Ouais, c'est normal.
Non, c'est juste parce qu'il a volé.
Imaginez-vous que Monsieur Reuven, d'accord, Monsieur Reuven vole un champ. Il le vend à Monsieur Shimon. Je le vends à M. Shimon. Shimon,
c'est toujours les mêmes.
Il n'est pas au courant.
Je suis en guerre, les deux.
Shimon, il fait fructifier. Shimon, il fait fructifier. Il fait fructifier le champ. Et après, on retrouve le voleur. La police retrouve le voleur. Donc, elle dit, ah, mais c'est mon terrain. Donc, le propriétaire, qui était Yehuda, vient ici et dit, mais moi, je veux mon champ. Et je veux aussi les fruits qu'elle a fait. Vous me payez pour les fruits qu'elle a fait. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il a le droit? Alors d'un autre côté, Shimon va dire, oui, mais attendez monsieur, c'est moi qui me suis fatigué pour planter. Moi je savais pas, je gardais le fruit.
Je suis receleur de bonne foi, on appelle ça en France.
D'accord? C'est pas de ma faute, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce qu'on fait? Il récupère les fruits aussi. Par contre, il devra rembourser à monsieur Shimon tous les frais qu'il a eu. Tous les frais, donc toute la fatigue qu'il a eu, tout le temps perdu, tout ce que vous voulez. Pas de problème, il paye. Ah. Mais, ça c'est normal, ah oui, c'est une fatigue. Il fatigue, il y a eu des frais. Mais il récupère les frais. Ça, c'est le cas de Achilat Perot. Deuxième cas, c'est Shevar Karkaot. C'est quoi Shevar Karkaot? C'est si l'acheteur, donc toujours dans le même cas, si l'acheteur a amélioré le champ. C'est-à-dire, il a acheté un champ d'un voleur, mais lui, il ne savait pas qu'il était voleur. Et il a amélioré le champ, il a rajouté des plantations, il a rendu bien le champ.
Système d'irrigation.
Et l'autre, après, il arrive... Il dit, mais c'est mon champ. Ouais. Et il retrouve la système d'irrigation.
Il a raconté d'ailleurs. Son champ, il était une horreur.
Le gars, il s'est fait voler une épave, d'accord? Une voiture,
une
épave. Et on lui rend une Rolls.
C'est ça. Non, mais c'est pas...
Donc il dit, vous me la rendez. Alors, là, dans ce cas-là, écoutez-moi ce qu'on va dire ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Il devra rendre le champ tel quel. Il dit, ah, mais j'ai fait des investissements. Il dit, moi, j'en ai rien à faire, je t'ai rien demandé. C'est pas de ma faute, on m'a volé mon champ. Et là, dans ce cas-là, ce qui est spécial, c'est que la personne qui devra rembourser l'investissement à Shimon, c'est Reuven, c'est le voleur. C'est-à-dire que Shimon devra aller chez Reuven, le voleur, pour lui dire, tu me rembourses l'investissement que j'ai fait.
Et si Reuven, le voleur, ne peut pas rembourser?
Eh ben, on se servira de... Alors, justement,
on le met en...
C'est un produit qui est
en travail forcé.
Alors,
il vole du blé,
justement. Alors, maintenant, la question va se poser, si maintenant Reuven, donc le voleur, a vendu à Shimon. Reuven, le voleur, il vend à Shimon. Shimon a amélioré le champ. Donc, il a payé le champ, par exemple, 50 000 euros, et il a mis 10 000 euros d'investissement. Bon. Donc, maintenant, après, le Yehuda, il revient, il reprend son champ. Donc, il reprend les 60 000 euros, parce qu'il dit, moi, je ne t'ai pas demandé d'arranger mon champ. Les fruits, je vais te les rembourser, mais je ne t'ai pas demandé de l'arranger. Je t'ai rien demandé. Très bien. J'ai pas 10 000 euros maintenant. J'ai rien demandé à personne. Alors, maintenant, il y a 60 000 euros à rembourser. 60 000 euros que Shimon doit reprendre de chez Reuven. 50 000 euros, il peut se servir de tous les biens. Même des biens hypothéqués, de tout il peut se servir. Il peut se servir des terrains, de tout. Tout est hypothéqué pour ça. Mais les 10 000 euros, ça le voleur il va dire, tu peux te servir des 10 000 euros, mais que des biens qu'on appelle des nechassim qui ne sont pas mishuvadim. Ça veut dire que du mobilier. Mais l'immobilier tu ne peux pas te servir. Pourquoi? Parce que même si moi je t'ai vendu un terrain volé, mais je n'ai pas demandé d'investir dedans. Donc tu peux te servir, c'est intéressant, tu peux te servir que du mobilier. Pas de l'immobilier.
Et s'il n'a pas de mobilier?
Eh ben, il paye pas. Je t'ai rien demandé.
Mobilier, même l'argent. Hein.
Tout ce qui est immobilier. L'argent, d'accord? Après, on peut faire saisie sur salaire, tout ce que vous voulez, mais pas d'immobilier. Je t'ai rien demandé, moi, je t'ai pas demandé d'investir dans ce genre. Bah, t'es... Ok, j'ai intérêt
à faire. Je casse tout ce que t'as fait.
Bon.
Si c'est un produit transformé, ou la valeur peut être. Il vole du blé, il lui donne du blé, donc tu mets le blé et que tu pars.
C'est bonne journée.
Quelle est la valeur?
Il va prendre le pain.
Tu rembourses, je reprends le pain, d'accord? Et je vais rembourser le prix de la fatigue. Je vais rembourser le prix de la fatigue que ça prend pour faire du pain. Ça prend du temps à faire du pain.
Ou la valeur marchande. D'accord. Je le revends le pain et je prends la valeur marchande.
Non. Moi, je reprends mon blé. Je reprends mon blé et je te rembourse pour la fatigue.
Voilà, transformer sous forme de pain et je te rembourse pour la fatigue.
Moi, je prends le pain. Moi, je prends... Bon.
Mais on oublie de blé.
Non, moi, ce que j'ai pensé, c'est que peut-être ils se sont arrangés. Peut-être Yudé, il a dit à Rouven, écoute, tu voles mon champ, tu le vends, et moi, après, par derrière, je viendrai. Tu vois, le gars, là, je pense qu'il va acheter le champ, il va faire un bel investissement, il va mettre un beau système d'irrigation comme ça, 20 000 euros. Donc, je conclue. Donc, Velimzon Aisha Vabanot, Minechassim et Shubadim. Également maintenant pour la nourriture de la femme et des enfants. Imaginez-vous que le mari, je finis avec ça, que le mari est décédé et qu'il a tout son héritage, il l'a donné aux enfants. Il n'a rien donné aux filles. Rien donné aux filles, rien donné à la femme. Et la femme et les filles, il faut bien leur donner à manger maintenant. Donc on a l'obligation de leur donner à manger. Donc où on va se servir pour leur donner à manger? On ne se sert pas des biens de l'immobilier. On ne se sert que du mobilier pour leur donner à manger. De l'immobilier, on ne se sert pas. Tout ça, Nipne Tikkun HaOlam pour l'intérêt général, parce que vous comprenez que sinon on n'en finit plus. Vamotse Metsial, donc tout ce qu'on a dit pour le voleur, etc., le fait qu'on se sert pas, les cas qu'on a dit qu'on se sert pas de l'immobilier, le cas du voleur, le cas pour la nourriture de la femme et les enfants, etc., c'est pour l'intérêt général. Amotse Metsial Oishavam de Tikkun HaOlam. Ah, ça c'est un retrouve Baba Metsia. Celui qui trouve une perte, qui trouve quelque chose, et il le rend à son propriétaire. Et le propriétaire, il dit,
mais il est cassé.
Il est cassé. Il manque quelque chose. Vous m'avez rendu mon portefeuille avec 1000 euros. Il y avait 3000 euros. Ouais. Ouais, alors lui, on aura envie de dire, ben très bien, on va aller au Bedin. Tu vas jurer qu'il y avait, tu vas jurer qu'il y avait que 1000 euros. Non. On dit, l'Oishava, il ne jure pas. Pourquoi? Mais peut-être Tikkun HaOlam. Pour l'intérêt général, parce que sinon,
ça, jamais
les gens jamais voudront apporter une perte. Tu vas dire, non, je vais lui faire quelque chose de bien, et ça va se retourner contre moi. D'accord?
Je garde.
D'accord? Je laisse par terre ou je le garde. Je vais pas me prendre la tête maintenant. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne le fait pas jurer. On lui fait confiance, bien que normalement, selon la Torah, on aurait dû le faire jurer. C'est-à-dire qu'un cas comme ça, on aurait dû le faire jurer. On ne le fait pas jurer, il y a Tikkun HaOlam pour l'intérêt général. Les Ilou Nishmat, Menachem Mendel, Ben Michal, on s'arrête ici pour aujourd'hui.